franceinter.fr. Le grand entretien. François Bunel.
Quel remède opposer au stress quotidien que nous éprouvons tous à un moment ou à un autre? La philosophie, la spiritualité, mais peut-être aussi la médecine. Et c'est précisément l'exploration de ces nouvelles voies de la sagesse qui passionne Thierry Janssen, chirurgien, cancérologue, spécialisé en urologie et qui décida, du jour au lendemain, d'abandonner la chirurgie pour se consacrer à un travail de psychothérapie et d'écriture. C'était il y a 14 ans. Apprendre à vivre à l'intérieur de soi, ce qu'il a appelé dans un de ses livres la solution intérieure, voilà qui ne va pas forcément de soi dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Son nouvel ouvrage, intitulé Le défi positif, intéressera tous ceux qui cherchent à exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Il raconte aussi cet ouvrage, mais en creux, l'itinéraire d'un homme en quête de sens, en quête du bonheur.
Le grand entretien sur France Inter.
Thierry Janssen,
François Bunel. Bonsoir Thierry Janssen.
Bonsoir.
Le bonheur, ça existe? Ou bien ce n'est qu'un concept forgé par les hommes, une idée abstraite?
Ah, le bonheur est une idée certainement très abstraite et c'est probablement une idée qui doit rester abstraite pour que chacun, et surtout flou, pour que chacun puisse y mettre ce qu'il a envie d'y mettre.
C'est une définition effectivement qui, d'abord, qui n'est pas forcément de vous, je crois que c'est Bergson qui disait
absolument,
ça, hein, Thierry Janssen.
Absolument.
Faisons en sorte que le bonheur reste le plus flou possible de façon à ce que chacun y projette ses fantasmes. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le bonheur est une réalité tangible, que l'on peut toucher du doigt, ou alors est-ce que ce sera jamais qu'une quête, une chose, une idée qu'on va poursuivre toute notre vie?
Alors vous savez, moi, ma culture, elle est d'abord scientifique, parce que j'ai fait des longues études médicales, et puis quand je me suis tourné plus vers la philosophie et même vers la spiritualité, j'ai beaucoup de mal à faire le pont entre ces deux univers. Et effectivement, quand on s'intéresse à la question du bonheur, d'un point de vue scientifique, comment aborder cela? Et il se trouve que on peut aujourd'hui, quand on interroge les gens sérieusement, qu'on essaye dans différentes cultures de comprendre quelles sont les conditions que l'être humain a besoin pour créer, inventer son bonheur, on trouve effectivement qu'il y a des dénominateurs communs que nous partageons tous. Alors même si le bonheur est un concept flou, comme disait Bergson, qui doit le rester pour que chacun puisse y mettre ce que l'on veut, même si Diderot disait que les théories du bonheur ne racontent jamais que l'histoire de ceux qui les font, ce qui est vrai en soi.
Mais c'était pas le plus malheureux des hommes en même temps.
C'était pas le plus malheureux des hommes.
Libertin, érudit, détestant pas la bagatelle.
Oui, absolument. Mais sans doute qu'il avait compris ce que ces enquêtes scientifiques nous montre aujourd'hui, qu'une des conditions indispensables à notre bonheur, c'est d'abord d'éprouver du plaisir. Le besoin de plaisir est un besoin essentiel pour l'être humain. Le plaisir nous motive. Et notez d'ailleurs que, généralement, nous retrouvons le plus de plaisir dans ce qui est absolument vital pour nous. Manger, nous reproduire, faire du lien avec les autres. Donc Diderot savait très très bien comment aborder cette question du plaisir. Mais elle ne suffit pas.
Alors, elle ne suffit pas, je voudrais qu'on prenne les choses par le commencement si vous voulez bien, parce que dans la question du plaisir, il y a bon, les plaisirs un peu futiles, les plaisirs que la consommation aujourd'hui crée chez nous, l'envie de plaisir peut-être pour des choses qui après tout ne nous sont pas nécessaires, et puis des plaisirs, vous y faisiez allusion, qui eux sont peut-être plus vitaux, manger, boire, savoir.
Des plaisirs essentiels d'ailleurs.
Comment fait-on la différence aujourd'hui en 2011, Thierry Janssen? On a le sentiment qu'au XVIIIe siècle, à une période où le silence, le calme de l'esprit permettait plus de savoir faire la différence. C'était peut-être plus simple. Aujourd'hui, comment fait-on?
Je pense qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire parce que nous vivons dans une culture qui est prise à son propre paradigme, à son propre piège en quelque sorte, en ce sens que c'est une culture qui repose sur la production de biens que nous devons consommer pour pouvoir en produire d'autres. Et du coup, mais dans cette culture-là, nous avons un discours qui est celui de la peur. Nous devons sans arrêt prévoir, anticiper, nous protéger pour produire toutes sortes sorte de protection, la plupart du temps assez inutile, pour des peurs qui sont injustifiées, des choses qui n'arriveront probablement jamais. Et du coup, nous continuons à produire, à consommer très gaiement quelque part. Mais le piège de cela, c'est que ça nous éloigne de la réalité du quotidien, du concret, du présent, et qui fait que lorsqu'on est réellement relié à cette réalité-là, lorsqu'on est réellement dans la rationalité de l'instant présent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses inutiles qui participeraient soi-disant à notre plaisir, et que nos vrais plaisirs, nous les trouvons dans des choses très simples, et d'abord dans la qualité de savourer le plaisir.
Alors nous allons revenir, si vous le voulez bien, sur toutes ces données, creuser aussi un petit peu les différentes voies qui nous permettent de savoir mieux gérer nos plaisirs, choisir aussi entre les différents plaisirs, peut-être trouver du sens et du bonheur à tout cela. Dans ce livre, Le Défi Positif, qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent, oui, vous racontez à la fois votre parcours, celui des gens que vous avez croisés, notamment souvent des malades, face au cancer, face à la souffrance, à la douleur que celle de la maladie. Et vous cherchez aussi ce que peut être le bonheur dans la société, à la fois de l'hyperconsommation, de la maladie, et puis embrassant à la fois une approche scientifique, la vôtre, hein, votre formation, et les approches psychologiques nouvelles. Je voudrais déjà que vous nous expliquiez, Thierry Janssen, quelle idée du bonheur on vous inculquait lorsque vous suiviez, vous, des études qui menaient vers la chirurgie, vers la médecine.
Ah, d'abord, la question du bonheur n'était d'ailleurs pas du tout abordée dans mes études de médecine. En revanche, il y avait une sorte de confusion entre l'état de bien-être et le bonheur. Et cette confusion remonte d'ailleurs à la philosophie utilitariste. Quand Jeremy Bentham nous a dit qu'il fallait un maximum de bonheur pour un maximum de gens, le mot bonheur était welfare en anglais, ce qui veut dire le bien-être. Et de là, dans une société de plus en plus tournée, grâce au progrès scientifique, dans la domestication de la matière, dans la création de ce bien-être matériel, nous avons très vite confondu notre bonheur avec la consommation de biens matériels, apportant ce confort et cette sorte d'ataraxie et d'apathie, cette absence de trouble et de passion, qui rejoint très fort la philosophie des épicuriens, qui nous disait, les vrais épicuriens, avec Aristide de Cyrène.
Alors qu'est-ce que c'est le vrai épicurien? Parce qu'on confond souvent l'épicurien en disant c'est celui qui se vautre dans la fange, la débauche, ça n'est pas ça.
Non, disons que les premiers épicuriens, ce sont les premiers hédonistes, je dirais plutôt, hein, parce qu'il s'agit de ça. C'était Aristide de Cyrène qui nous disait que le bonheur était le plaisir et qu'on ne pouvait pas connaître le bonheur sans plaisir. Et pour lui, le bonheur était une absence de trouble et de passion, une apathie et une ataraxie, une sorte d'anesthésie générale quelque part aussi. Mais Épicure ne nous a pas dit cela. Il nous a dit, bien sûr, le bonheur est relié au plaisir, mais ce plaisir, on ne peut l'atteindre qu'à travers une vie vertueuse. Et Épicure était un homme très vertueux, même si les premiers chrétiens et déjà les Athéniens l'ont diabolisé. Les Athéniens, parce que Épicure vivait dans son jardin avec ses disciples et puis avec toutes sortes de femmes aussi, ce qui n'était pas de bon ton dans la société athénienne du 4e et du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, il était très critiqué. Et puis les chrétiens ont repris ça pour le diaboliser, car il parlait, lui, de plaisir. Mais
et de l'immédiat.
Et de l'immédiat,
du
présent. Bien sûr, et non
du
pas
temps,
d'un paradis.
Du temps d'aujourd'hui et non pas d'un temps à venir.
Non pas d'un bonheur qui viendrait dans un autre monde demain.
Faut-il comprendre, Thierry Janssen, qu'aujourd'hui, en 2012, vous invitez à relire Épicure, à revenir à une idée selon laquelle le bonheur est à prendre aujourd'hui et non pas dans quelque espérance, dans quelque espoir d'une vie meilleure?
Je crois que aujourd'hui, depuis que Dieu nous a dit. Depuis que Nietzsche nous a dit que Dieu était mort.
Dites-moi, c'est un lapsus intéressant,
dans
ça, pour un psychothérapeute.
Oui, oui.
Pourquoi lâchez-vous Dieu comme ça?
Vous savez pourquoi? Exactement, à l'instant où je vous parlais, je voyais la couverture d'un livre qui s'intitule « Dieu », écrit par Frédéric Lenoir et Marie Drucker, que je viens de voir à la gare du Nord où je suis arrivé depuis Bruxelles là tout à l'heure. Je voyais cette couverture et j'associais Frédéric Lenoir avec Dieu et Nietzsche parce que voilà, c'est un propos qu'on peut retrouver dans ses écrits. Et il y a eu un télescopage dans ma pensée et j'en suis très conscient. parce que je crois qu'il faut toujours garder un petit observateur en soi qui voit, se voit en train de parler ou d'agir.
Alors vous nous dites, Nietzsche effectivement disait Dieu est mort, mais enfin oui. Lui il a simplement posé le diagnostic, ça, il n'est pas responsable du forfait.
Absolument, mais en même temps nous voyons bien que nos contemporains, et peut-être moi-même pour commencer, on est un peu perdu. À quoi faut-il se rattacher ? Qui nous dit quel est le chemin à suivre ? Et on voit que de plus en plus de gens retournent, puisque c'était votre question, retournent vers les philosophes de l'Antiquité, qui étaient pleins de bon sens, retournent vers un autre grand philosophe qui est Bouddha.
Vous mettez Bouddha du côté des philosophes ?
Je pense.
Plus avant, que des spiritualistes ? Plus que des religions ?
Je pense que d'abord, il a proposé une philosophie de vie. Après, on peut, et il faut s'entendre sur le mot spiritualité. Personnellement, quand j'utilise le mot spiritualité, je parle d'une compréhension de l'esprit des choses. Encore faut-il définir ce qu'est l'esprit des choses. Et là, je me réfère souvent au vocabulaire anglo-saxon qui est souvent très précis. Nous avons un langage très poétique en français, mais les anglo-saxons ont un vocabulaire très précis qui d'ailleurs est très, très adéquat pour le langage scientifique. Et quand ils parlent des différentes dimensions de l'être, ils parlent du corps en tant que body, ils parlent des émotions, soul, l'âme qui nous anime, et movere en latin, ce qui nous met en mouvement. Et puis ils parlent non pas de l'esprit comme nous le faisons en français pour parler de la pensée, ils parlent du mind, les processus de la pensée. Et ensuite, ils viennent avec la notion de spirit, l'esprit, le souffle, le spiritus latin qui traverse toutes les dimensions du vivant, qui relie toutes ces dimensions. Et c'est peut-être ça, la spiritualité. Comprendre le souffle, comprendre les liens entre toutes les dimensions de ce qui est. Donc pour moi, la spiritualité n'a rien de religieux. Elle peut alimenter un discours religieux, mais elle doit aller se chercher derrière les discours religieux.
Nous allons comprendre avec vous, Thierry Janssen, ce qu'une spiritualité qui n'est pas religieuse peut apporter dans, justement, le rapport à la maladie, puisque c'est essentiellement l'un des thèmes de ce livre,
c'est
le
mon
défi
terrain.
Positif.
C'est
votre terrain. Ce que vous nous disiez quand même, c'est qu'aujourd'hui, les grands chirurgiens, car vous en fûtes un avant de décider, et vous nous direz pourquoi, de claquer la porte de l'institution, ne sont pas du tout formés à la question du bonheur, mais à peine à celle du bien-être. Thierry Janssen, invité du Grand Entretien, voici Milagres, Here to Stay. I was restless. I was young.
Le grand entretien de François Bunel sur France Inter.
En compagnie aujourd'hui du chirurgien devenu psychothérapeute Thierry Janssen. Que signifie cette expression, le défi positif, qui donne aujourd'hui son titre à votre nouvel ouvrage paru, je le rappelle, aux éditions donc Les liens qui libèrent.
C'est un défi pour moi, personnellement déjà, dans ma propre vie. Et puis je pense aussi dans la vie des contemporains avec lesquels j'évolue. Parce que, curieusement, nous sommes d'abord attirés par le négatif. Et il semble que ça soit relié à notre instinct de survie. Nous repérons d'abord ce qui ne va pas pour nous en prémunir ou pour le prévenir. Et il faut remarquer que dans une culture comme la nôtre, on en parlait il y a un instant, une culture qui produit, qui fait consommer et qui se fait peur à l'avance pour en produire toujours davantage, il y a une tendance à surenchérir du côté du négatif. En médecine en particulier, on ne soigne que ce qui ne va pas plutôt que de s'intéresser à ce qui va bien et à prévenir la maladie en promouvant ce qui va bien. Nous sommes sans arrêt en train de pointer du doigt les défauts, les manques des individus, rarement en train de valoriser leur
potentiel.
Mais est-ce
que c'est lié, Thierry Janssen, à une logique de l'urgence ou à une façon profonde de penser notre rapport au
monde? Je pense que
c'est
une vraie distorsion dans notre manière de nous regarder, dans notre représentation que nous avons de nous-mêmes et du monde. Et nous avons de plus en plus tendance à pathologiser notre être et la vie normale. Savez-vous qu'il y a notamment un répertoire des troubles mentaux, qu'on appelle le DSM, le manuel statistique des troubles mentaux, qui existe depuis 1952, qui a été établi par l'Association américaine de psychiatrie et qui en est à sa 4e version, bientôt la 5e. En même pas 50 ans, on est passé d'une centaine de troubles à plus de 300 troubles. Et quand on voit les troubles qui sont décrits dans ce genre de manuel, il y a notamment les troubles de l'humeur de la femme en période de menstruation. Mais il n'y a rien de plus naturel pour une femme que d'avoir ses règles chaque mois et d'effectivement, parce que les hormones peuvent influencer son humeur, avoir des vagues à l'âme. Mais il ne faut pas prendre ces vagues à l'âme comme des pathologies. Seulement, dans ce manuel, on prescrit un traitement anxiolytique et antidépresseur à ces femmes. Donc on est en train de pathologiser toute la représentation que nous avons de nous et du monde en général, nous faisons que nous prémunir et produire, comme je le disais, un tas de remèdes contre cette pathologie. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de pathologie, et en tant que médecin, je le sais bien, mais en même temps, peut-être que nous devons apprendre à rééquilibrer notre vision de nous.
Alors comment faire précisément pour créer ce nouvel équilibre, à la fois pour éviter donc de créer des pathologies, pour éviter de créer de l'angoisse et pour comprendre que la peur n'est pas une vision du monde?
Je pense qu'il y a d'abord à recréer un espace intérieur. Parce que nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes, nous sommes dans le faire, nous nous projetons dans le futur et nous n'avons plus de place pour prendre le recul, pour relativiser, pour rester en lien avec la réalité du présent, comme on le disait là tout à l'heure. Et cet espace intérieur, ce que les philosophes stoïciens appelaient une citadelle intérieure, ce que les bouddhistes appellent l'espace intérieur, nous sommes de moins en moins aptes à le créer. Et le monde dans lequel nous vivons, monde que nous créons, hein, parce que la société n'est pas quelque chose en dehors de nous, nous participons à cette société, c'est nous qui l'orientons. Mais ce monde ne fait que renforcer cette tendance à vivre à l'extérieur et de ne pas avoir d'espace intérieur. Donc pour y arriver, comme on est allé un petit peu loin en dehors, il faut peut-être faire un effort particulier pour revenir à l'intérieur. C'est-à-dire peut-être apprendre à revenir dans la pleine conscience de l'instant présent. Il y a aujourd'hui, on parle de méditation en pleine conscience, qui vient des pratiques méditatives du bouddhisme, mais toutes les cultures de l'humanité nous ont proposé des pratiques méditatives. Moi, je me souviens quand ma mère, quand j'étais petit garçon, ma mère tricotait devant la télévision. Et il y avait des fois, j'étais pas très très gentil, comme certains petits garçons, et je me valorisais moins intellectuellement parce que j'étais pas bien dans mon corps. J'ai beaucoup souffert dans mon corps quand j'étais enfant, il était déformé, etc. Et du coup, je suis monté dans ma tête et là, j'étais en sécurité. Et un jour, je me rappelle, j'avais envie de blesser ma mère pour je ne sais quelle raison, et sans doute par vengeance, elle m'avait sans doute puni. Et je lui ai dit, pendant qu'elle tricotait, je lui ai dit, t'as rien d'autre de plus intelligent à faire. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, mais tu sais, ça m'apaise. Et aujourd'hui, je me rends compte que ma mère méditait à sa façon, c'est-à-dire de la même manière qu'on peut égrener un chapelet, de la même manière qu'on peut réciter un mantra ou rester focalisé sur sa respiration, elle restait en comptant ses mailles, focalisée dans l'instant présent, sans laisser son esprit partir dans la réflexivité d'une idée à l'autre, qui finalement nous emmène souvent dans le stress.
Et aujourd'hui, Thierry Janssen, à l'heure où Internet est présent partout, où le téléphone portable nous dérange à chaque instant, où les emails arrivent immédiatement sur nos téléphones portables, où l'immédiateté est la règle, où malheureusement, ou heureusement peut-être, en tout cas, il n'y a plus de mailles à faire et de tricot en permanence dans les foyers, comment faire pour créer cette citadelle intérieure et se réapproprier le temps présent?
Alors, nous avons un grand allié qui est nous, mais nous au niveau de notre corps. Notre corps nous envoie des signaux très régulièrement quand nous commençons à dépasser les limites et que nous vivons trop sous le mode de cette tension. Le drame aussi, c'est que nous n'écoutons plus ce corps. Notre tête dirige et dit on peut aller au bout de ses limites et puis on se repose un tout petit peu ou on consomme un petit peu de substances ou de médicaments.
Et pardonnez-moi, c'est ce que les chirurgiens, précisément, notamment, essayent de nous dire et de faire lorsqu'ils viennent soigner des corps, lorsqu'ils permettent au corps de remarcher, de refonctionner.
On n'a pas un discours par hasard. Et mon discours, il est évidemment ancré d'abord dans le corps. Mais comme je vous ai dit, enfant, j'ai pas mal souffert dans ce corps. Et ça ne m'étonne pas, avec le recul, de constater que j'ai choisi la voie médicale chirurgicale, parce que c'est ce corps que j'avais besoin de toucher, que j'avais besoin d'apprivoiser.
Que vous est-il arrivé exactement, Thierry Janssen?
Mais si vous voulez, enfant, d'abord, je pensais que j'étais très vilain. Et donc, j'étais terrorisé par le regard des autres qui pointaient certaines déformations. J'avais un thorax qui pointait vers l'avant, des genoux qui étaient complètement tordus. On parlait d'opérations. J'ai fait de la gymnastique tous les jours pendant 10 ans, à raison de 3 heures par jour. Enfin, bref, des bains de mer, parce qu'à l'époque, on soignait avec des bains de mer. Mais tout ça pour dire que j'étais absolument pas à l'aise dans mon corps. Et ce qui m'a sauvé, c'est la danse. J'ai dansé tout seul dans le noir, dans ma chambre, pendant une dizaine d'années, de l'âge de 6-7 ans jusqu'à mes 16-17 ans. Et c'est ce qui m'a réellement sauvé. Donc aujourd'hui encore, je danse très régulièrement. Et donc pour moi, le corps est évidemment la porte d'entrée la plus tangible dans l'être. Non pas que je crois à une dualité de l'être. Je fais l'expérience tous les jours de l'unicité de l'être, de mon être en tout cas. Je suis un corps qui pense et mes pensées influence mon corps comme mon corps influence mes pensées. Je suis qu'une seule chose à différents niveaux d'information. Mais le souffle traverse tout ça et j'essaie d'avoir la compréhension de ce souffle. Et c'est là ma spiritualité. Et je pense qu'on peut avoir une spiritualité tout à fait médicale. Il suffit de comprendre les différentes dimensions de l'être et d'arrêter de le soigner au premier étage pour son estomac, au deuxième étage pour ses poumons, au troisième étage pour sa psyché. Il faut absolument qu'on revoie l'individu dans sa globalité et alors on touche au mystère de l'être et du phénomène humain, comme disait Thérèse de Chardin.
À quel moment de votre vie avez-vous décidé de devenir chirurgien à partir du moment où vous avez compris que votre corps, que ce corps que nous avons tous, était quelque chose qui n'était pas capable d'obéir exactement aux injonctions de votre cerveau, à vos rêves, à vos envies?
Non, j'ai dit que je deviendrais chirurgien à l'âge de 5 ans. Quand
vocation
ma mère...
précoce.
Oui, en fait, vous savez, les vocations, je me demande sur quoi ça repose. Parce que dans mon cas, en tout cas, j'étais à l'hôpital en train de rendre visite à ma mère qui avait été opérée d'un problème de hernie discale. Et elle m'a montré le chirurgien qui l'avait opéré. Il passait dans le couloir. Et en le voyant, j'ai dit, moi, je vais faire ça. Alors, peut-être qu'il y avait un désir de sauver maman. C'est tout à fait possible. Après, je vais m'allonger sur le divan et vous faire ma psychanalyse. Mais en même temps, je me rends compte que c'était presque un piège. Parce que dès l'âge de 5 ans, ce n'était pas médecine que je voulais faire, c'était chirurgie. Et pour y arriver, vous êtes obligé de faire pas mal de sacrifices. Donc, pas vivre ma jeunesse, travailler énormément, parce que je n'ai pas forcément de facilité scolaire. Et puis, en même temps, à la même époque, vers 5-6 ans, je suis tombé amoureux de l'Égypte ancienne. Et ça m'a pris de la même façon. Très subitement, je me souviens du jour où c'est arrivé. J'étais dans mon lit. Je lisais un vieux Tintin de 1945, un magazine Tintin qui avait appartenu à mon père. Et il y avait une rubrique chaque semaine, Tintin raconte. Et cette semaine-là, Tintin racontait la découverte de la tombe de Toutankhamon. Et en voyant, je savais à peine lire, En lisant ça, j'ai été subjugué. Et le lendemain, j'ai dit à mes parents, je voudrais en savoir plus. Ils m'ont dit, voilà, l'encyclopédie universaliste est là, tu feuillettes, tu trouves. Et de ce jour-là, je n'avais que deux idées en tête, égyptologie ou chirurgie.
Vous découvrez donc l'Égypte et ses mystères, la lecture aussi, qui permet parfois de percer quelques mystères. Vous découvrez la chirurgie à terme, après avoir fait ces longues années d'études. Vous devenez chirurgien, spécialisé en urologie, vous intégrez un service de cancérologie. Vous y restez quelques années tout de même.
12 ans.
À Bruxelles, oui. En Belgique.
Et en France aussi, j'ai travaillé à l'hôpital Saint-Louis pendant plusieurs mois.
Et un jour, il y a 14 ans, vous décidez de quitter ce monde de la chirurgie cancérologue. Pour quelles raisons, Thierry Janssen ?
Parce que j'ai écouté mon corps. Et pas du tout d'une manière volontariste, en ce sens que ça s'est fait naturellement, probablement un bon instinct de survie, en ce sens que, vous savez, quand on n'a pas fait un petit travail sur soi, on a tendance à accuser le monde environnant de notre inconfort. Or, j'ai adoré pratiquer, j'ai vraiment aimé pratiquer le métier de chirurgien, c'est un très beau métier, mais les deux dernières années de cette profession, pour moi, ont été très difficiles. J'étais tendu, j'étais agressif, je ne me reconnaissais même pas. Parce que ce n'est pas, cette partie de là de moi que j'avais envie d'exprimer. Et pourtant, ça sortait plus vite que moi, que mon ombre en tout cas. Et du coup, j'ai commencé à accuser mon milieu professionnel. C'est très facile de critiquer un hôpital universitaire. Il y a plein de défauts, il y a plein de névroses. C'est un grand lieu très pathologique. Mais le problème, c'était quand même moi, par rapport à moi-même. Et pensant que l'herbe serait plus verte dans le champ d'à côté, je me suis fait nommer dans le centre de cancérologie de l'Université de Bruxelles, c'est l'Institut Bordet, peu importe, c'est un peu le Gustave Roussy belge, si vous voulez. Et le 5 janvier 1998, donc ça va bientôt faire 14 ans, je suis arrivé là et je vous promets que, en partant travailler ce matin-là, je ne savais pas que deux heures après, je ne pratiquerai plus jamais ce métier. Et je suis arrivé à l'Institut Bordet, la dame qui devenait ma secrétaire me parlait dans l'ascenseur, je ne comprenais rien de ce qu'elle voulait. C'est comme si elle parlait une autre langue. Je suis rentré dans mon nouveau bureau, j'étais pris d'une espèce d'angoisse. Et j'ai entendu, comme je m'entends vous dire maintenant, une voix résonner en moi qui a dit « Si tu restes ici, tu vas mourir ». Et j'avais depuis plusieurs semaines des conjonctivites à répétition, j'étais couvert d'eczéma, alors que je n'ai jamais fait de problème de santé particulier. Et je n'avais pas du tout fait le lien entre cet inconfort physique et ces symptômes et mon stress. Mais j'ai sauvé ma peau en quittant le service en 30 secondes. J'ai écrit ma lettre de démission, ça a pris 2-3 minutes. Je l'ai remise à un chef de clinique qui m'a dit « c'est quoi ?» Je dis « tu verras bien assez tôt » et je suis parti.
Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment avez-vous trouvé la force de faire ce que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en ce moment comprennent de l'intérieur, cette envie, cette nécessité de s'écouter, de se dire « attention, ça va trop vite, trop loin, je dois m'en aller » et que beaucoup aussi, malheureusement, n'osent peut-être pas faire. Pour vous, Thierry Janssen, quel a été le déclic ?
Le déclic, c'était cette voix. C'était une évidence. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a demandé de comparer ça à une expérience concrète du quotidien. Si vous devez aller uriner, vous avez beau dire « je ne dois pas y aller », à un moment donné, c'est tellement fort que vous irez par n'importe quel moyen. Eh bien, c'était de cet acabit-là. J'avais beau m'être dit plusieurs fois auparavant, enfin, tu as fait de longues études.
Des sacrifices, vous le disiez.
Des sacrifices, puis tu as une position sociale, etc. Et j'avais toutes sortes de bonnes raisons de ne pas quitter, toutes sortes de peurs aussi, notamment financières. J'avais toujours été salarié, je n'avais pas d'autre revenu que mon travail. Voilà. Et là, il n'y avait plus de peur, parce que c'était ma vie qu'il fallait sauver.
Et démarre alors une autre vie. Et une autre vie symbolisée par cette chanson, peut-être, d'Étienne Dao, le premier jour du reste de ta vie.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut peut changer aujourd'hui. Est le premier jour du reste de ta vie. Plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles. Certitude s'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Est le premier jour du reste de ta vie. C'est providentiel.
Ceux qui veulent changer la vie, et puis il y a ceux qui veulent changer de vie. C'était en 1999, Étienne Dao chantait donc le premier jour du reste de ta vie. Ouais. Tout est là-dedans, dans le reste de ta
et
vie.
Et oui, c'est jamais fini. Janssen. Tant qu'on est vivant, il reste toujours une partie à vivre.
Alors il le dit, Dao, sacrifier son instinct et ses envies. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut finalement avoir accepté d'avoir fait, c'est-à-dire de se tromper, de vivre des années dans une institution, quelle qu'elle soit, un hôpital, une entreprise, pour ensuite avoir peut-être ce luxe et ce bonheur, cette joie de tout plaquer et de recommencer.
Vous savez, avec le recul maintenant, peut-être que si j'avais eu à l'époque l'état de conscience que j'ai aujourd'hui de moi-même et du monde, j'aurais pu rester et j'aurais peut-être pu continuer à pratiquer cette chirurgie, mais autrement. À l'époque, j'en étais pas capable, donc je suis ravi d'avoir fait un pas de côté, d'avoir créé cet espace intérieur et d'avoir compris certaines choses.
Quand vous dites qu'on peut pratiquer la chirurgie autrement, que souhaitez-vous dire? Que reprochez-vous aujourd'hui à la manière dont
déjà
on pratique
la
chirurgie?
Pardonnez-moi, je parle
vraiment de la cancérologie, puisque c'est là que vous exerciez.
Mais c'est d'abord à ma façon de pratiquer la chirurgie. Je reprochais quelque chose, en ce sens que je crois que je pratiquais très bien. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, j'étais assez doué, donc tout ça allait très bien. Mais je le pratiquais avec une ambition démesurée. J'avais les dents qui ratissaient au quatrième sous-sol. Je voulais absolument gravir les échelons de la hiérarchie universitaire, et d'ailleurs à 33-34 ans j'étais pratiquement au sommet.
Là, vous vouliez être monsieur le professeur.
Et oui, bien sûr, parce que c'est une frustration que j'ai connue très jeune face à mes professeurs, c'est que je n'avais pas en face de moi des maîtres, c'est-à-dire j'avais des gens qui me demandaient de répéter ce qu'ils m'avaient appris. Ils étaient très fiers de leur savoir, ils voulaient que je reste très fidèle à ce qu'ils m'avaient appris. Ça, c'est des professeurs. Mais moi, je cherchais des maîtres, c'est-à-dire des gens qui me donnent des outils pour, non pas les dépasser, les dominer, mais pour aller plus loin. Et je n'ai pas trouvé cela pendant mes études de médecine. Et donc, je m'étais toujours dit, moi, un jour, je serai en plus de chirurgien, professeur de chirurgie. Alors évidemment, j'étais un carriériste arriviste. Et cette façon de pratiquer la chirurgie n'était pas la bonne, pour moi en tout cas, car elle tuait justement ces envies profondes. Il y a un être autrement plus joyeux et déluré en moi que cet homme très sérieux qui demande des honneurs pour se sentir apaisé. Ça, c'est la partie névrotique, si vous voulez. C'est l'être en survie. Or, je pense que tout un chacun, nous avons une partie de notre vie où nous sommes en survie. Nous essayons de nous adapter, nous essayons de pallier au plus pressé. Et puis nous nous construisons progressivement. Et à un moment donné, il y a une crise de vie à l'occasion d'une maladie ou d'un divorce ou d'un enfant qui ne va pas bien dans la famille ou d'une perte d'emploi. Et c'est l'occasion, comme toute crise, ou bien de sombrer un peu plus profond parce qu'on ne comprend pas les causes qui nous ont emmenés dans cette crise, ou alors d'en faire une opportunité, une occasion de croissance. Et c'est là que réside notre liberté.
Saviez-vous ce que vous alliez faire lorsque vous avez rédigé cette lettre de démission?
Ah non, du tout.
Pas du tout.
Du tout. Et je suis. Vous savez, j'ai un jour lu, je ne sais pas s'il l'a réellement écrite ou prononcée, mais il semblerait que Christophe Colomb a dit « L'être humain ou l'homme ne va jamais aussi loin que lorsqu'il ne sait pas où il va ». Je pense que lui... En tout cas,
bien
son parcours l'illustre très
chose,
bien, parce que s'il avait refait les chemins, les voies de Vasco de Gama, il aurait revu les côtes africaines, mais il n'aurait pas découvert un nouveau continent. Et je pense que quand on part à l'aventure comme ça dans sa propre vie, qu'on ose un petit peu aller dans l'inconnu, on découvre beaucoup plus que ce qu'on croyait être. On découvre soi très profondément, et c'est beaucoup plus que ces défenses, que toute cette personnalité que nous avons construite pour survivre. Il y a quelqu'un en nous d'une vitalité incroyable, d'un enthousiasme, d'une joie naturelle.
Il faut libérer cette personne,
il faut la libérer,
cet instinct,
il faut la libérer.
Cette envie.
Vous savez, depuis l'époque dont nous parlons, personnellement, moi, un de mes grands outils, mon outil principal, c'est un journal. C'est-à-dire que depuis 14-15 ans maintenant, j'écris tous les jours dans un cahier, dans un journal, parfois plusieurs fois par jour. Maintenant, avec le temps, parfois j'oublie un jour. Mais je recommande à toutes les personnes que j'accompagne, puisque j'ai une consultation de psychothérapeute essentiellement avec des gens malades physiquement, je leur recommande d'avoir ce rapport avec eux-mêmes, non pas simplement dans la pensée, parce que des idées, il y en a beaucoup qui volent, mais des idées qui atterrissent, il y en a beaucoup moins. Et quand elles atterrissent sur le papier,
les idées... Une idée n'est pas nécessairement une pensée, si.
Non, bien sûr, hein, mais une pensée, ou avant même une pensée, une émotion qui nourrit...
Donc l'écrire.
L'écrire, ou parfois la dessiner, ou la jeter sur le papier pour la matérialiser, pour commencer à la voir, et créer cet espace entre elle et nous, justement, qui va permettre de
prendre... C'est une mise à distance.
C'est une mise à distance, non pas pour s'en débarrasser, ou pour le minimiser, ou pour l'ignorer, mais c'est une mise à distance pour le contempler, pour avoir un niveau de conscience plus élevé par rapport aux choses et à soi, à ce qui nous constitue. Et dans mon journal, je me vois. Et c'est un très bel outil, je crois, parce que on chemine avec soi-même. Et à la première page de ce journal, chaque année, je décolle du précédent une photo de moi enfant que je remets à la première page du journal de l'année. Une photo que j'ai choisie, sans doute pas par hasard. Et je regarde les yeux de cet enfant. Et j'essaye de lui promettre qu'en tant qu'adulte, je ne vais arrêter de le trahir. Je vais essayer de le prendre par la main et de l'aider à inventer une vie qui va avec ses aspirations. Et il y a chez l'enfant des aspirations d'une pureté, d'une justesse, d'un bon sens, reliées à l'instant précisément, qui mérite que l'on s'en réinspire lorsqu'on est adulte.
Si je vous suis bien, Thierry Janssen, il s'agit aussi d'une certaine fidélité, apprendre à redevenir fidèle à celui que l'on a été lorsque nous étions enfants.
Oui, à soi avec un grand S. Hein, et puis un petit peu de, comment dire, maîtriser ce moi avec un trop grand M bien souvent, hein, cet ego qui est là, qui n'est qu'une réponse à la peur finalement.
Vous êtes l'auteur, Thierry Janssen, d'un livre intitulé « La maladie a-t-elle un sens ?»
Oui.
Intitulé légèrement provocateur, quelle réponse donnez-vous à cette question ?
Il était sous-titré « Enquête au-delà des croyances » et volontairement parce que je l'ai écrit à cause du fait qu'en consultation, beaucoup de gens qui avaient fait des parcours divers, mais auprès de nombreux thérapeutes, commençant dans la médecine conventionnelle et puis allant vers d'autres médecines dites alternatives ou complémentaires, beaucoup de ces personnes venaient avec une quête de sens. Et là, tout à l'heure, nous avons dit que le plaisir était indispensable pour notre bonheur, que ce besoin de plaisir doit pouvoir être accomplie, remplie. Mais nous avons un autre grand besoin qui est le besoin de sens. Et les enquêtes scientifiques qui sont menées sur le bonheur aujourd'hui montrent que ce besoin de sens est au moins aussi important que le besoin de plaisir. Et ces patients qui venaient me voir en consultation, en quête de sens, ne trouvaient pas de réponse auprès de la médecine conventionnelle, qui voit l'être humain comme une machine, qui le soigne comme une machine, qui dès qu'il y a une innovation, considère que c'est un progrès, et donc utilise l'innovation pour faire avancer, soi-disant, la médecine, mais ne se pose jamais la question du pourquoi, du vers où allons-nous, de la signification et de la direction de tout cela. Et ces gens, alors, tombaient dans les mains de certains thérapeutes qui n'étaient pas forcément mal intentionnés, mais qui étaient dans des systèmes de croyances qui étaient plutôt donneurs de sens. C'est-à-dire qu'on plaquait sur leur maladie, sur leur existence, un sens préétabli. Et je trouvais ça, d'abord, enfermant, aliénant pour ces patients, absolument pas respectueux de tout ce qu'il y avait d'extraordinaire à découvrir en eux. Et tout mon travail était au contraire les aider à découvrir leur sens. Qu'est-ce qu'ils voulaient donner comme sens à leur expérience de la maladie, à l'occasion de cette souffrance? Qu'est-ce qu'ils avaient envie de se dire à eux-mêmes à l'occasion de cette difficulté, à l'occasion de cette crise? Et donc, tout ce livre explorait la question du sens, partant depuis ce que les anthropologues nous ont montré dans leurs observations auprès de peuplades très traditionnelles, jusque à l'absence de sens de la médecine conventionnelle actuelle et de cette médecine dite scientifique, et avec une grande question qui est comment aider l'individu à retrouver du sens, mais son propre sens.
Alors, dans ce livre, La maladie a-t-elle un sens? Mais aussi, dans votre autre livre, Le défi positif, vous nous montrez ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire que la parole aide, face à la maladie, à se redécouvrir, à se découvrir soi-même, à trouver peut-être un petit peu plus ce qu'est le sens. La parole aide, mais peut-elle guérir?
Je pense que dans certains cas, la parole peut réellement guérir, même des symptômes physiques. Mais il faut vraiment que cette parole soit en adéquation avec toute la cascade de toutes les dimensions de l'être, y compris ces dimensions non conscientes. Maintenant, le danger de la parole, c'est qu'on risque de s'y enfermer et d'être dans un verbiage où notre mental tourne sur lui-même, non conscient de ses croyances, de ses a priori, de ses idées toutes faites. Et il faut pouvoir quitter ces a priori, il faut pouvoir quitter ces conditionnements et ces automatismes pour avoir une parole réellement connectée à la réalité de soi. Et alors, elle peut être une parole qui guérit. Et dans cette optique-là, je crois qu'il faut toujours revenir au corps. Et une parole qui naît de l'expérience corporelle a beaucoup plus de force qu'une parole qui est plaquée sur l'expérience corporelle. C'est un peu la différence entre faire une théorie à partir d'une expérience vécue. Et mes livres parlent de gens malades parce que ce sont les gens que je rencontre dans mon quotidien. Et à partir de là, je peux amener des idées qui peuvent éventuellement devenir des hypothèses, voire des théories. Mais il serait très dommage, et on le fait encore trop souvent, je trouve, de partir de théories toutes faites et de vouloir y faire coller la réalité. On n'avance pas comme ça. Il faut des gens comme Einstein qui vous disent « ce que j'observe ne correspond pas à la réalité expliquée par ma théorie, donc je revois ma théorie, parce que ce qui compte, c'est l'expérience dans la matière, c'est l'expérience dans le concret, dans la vie de tous les jours. »
Et je sais que tu m'écoutes. Tu ne prendras pas ta guitare ce soir. Et tu me prendras, moi. Moi qui prends si bien, qui prends si bien la lumière. Oserais tendre mon grain de peau. Tu ne prendras pas ta voiture, c'est sûr. Tu me prendras, moi. Moi qui rends si bien tes caresses. Oserais tendre la bête à deux dos et m'entendre les mots les plus chauds. Oh, corcelle d'un sourire. Aux heures où tremble mon cœur idiot, qu'on est ensemble. Oh, mais si c'est ce soir on va s'aimer encore, comme tant de fois où on s'adore. Allez, prends-moi dans tes bras.
C'était Catherine Ringer, extrait de son dernier album « Prends-moi ». Thierry Janssen, vous êtes auteur donc de ce livre « La maladie a-t-elle un sens ?» On vient d'en parler, éloge de la parole, de la citadelle intérieure, de la méditation, de l'aptitude à retrouver le temps présent. Et pourtant, juste après avoir écrit ce livre, il y a 2 ans, vous êtes tombé gravement malade. Que faut-il en déduire? Mais que tout ce que vous écrivez, non, en réalité, n'est pas opérant, ne fonctionne pas?
Ça ne m'a évidemment pas fait plaisir de tomber malade. Mais en même temps, je me suis dit, je pense que les livres que j'écris sont en lien avec mon parcours. Mon premier livre s'appelait « Le travail d'une vie ». Et c'est comme si c'était le menu que je m'annonçais. Et puis, il y a eu « Vivre en paix ». Et « Vivre en paix », j'avais besoin de trouver la paix en moi. Et mon éditeur, chez Robert Laffont à l'époque, me demandait un livre qui parle du lien entre le corps et l'esprit. J'étais incapable de l'écrire. Il fallait d'abord que je fasse la paix entre le chirurgien et puis le thérapeute, le guérisseur, enfin, toutes ces dimensions que j'avais explorées. Et c'est seulement après avoir écrit « Vivre en paix » qu'est venue alors la solution intérieure, qui était ce livre qui parlait de lien corps-esprit et toutes ces médecines qui s'y intéressaient. Et puis après avoir écrit un livre sur la médecine et ces médecines alternatives, complémentaires, et j'ai voulu écrire un livre sur la maladie. La maladie a-t-elle un sens? Et je crois que c'est pas par hasard que je suis tombé malade juste après, en ce sens que j'ai donné beaucoup de conférences, près de 200 conférences en un an. J'avais tellement peur qu'on ne lise pas un livre dans le titre duquel il était utilisé le mot maladie. Et donc j'ai répondu à toutes les sollicitations. Et puis, besoin narcissique, de reconnaissance, etc. Enfin, tout ce que notre ego peut nous faire faire de parfois délirant. Et je me suis retrouvé dans l'épuisement à ne pas bien soigner une grippe. Et ça a dégénéré en une infection de la moelle épinière avec une paralysie de la moitié du corps. Enfin. Bref, j'étais très très fâché sur moi. J'étais ici à la Pitié-Salpêtrière à Paris parce que c'est arrivé dans le train entre Bruxelles et Paris. Et j'étais vraiment fâché en me disant « Mais si te restait 3 mois à vivre, qu'est-ce que tu voudrais encore faire ?» Et dans mon journal, la réponse a fusé. « Je voudrais d'abord être. » Et qu'est-ce que ça voulait dire, être pour moi? C'était partir en Égypte et créer de nouveau un espace intérieur pour m'éprouver, pour me ressentir et exprimer.
Partir en Égypte, en retraite.
En retraite. Et je m'étais toujours promis, j'ai beaucoup voyagé en Égypte depuis l'âge de 20 ans. Dès que j'ai pu voyager seul, je suis parti là-bas, mais toujours comme touriste, 15 jours, 3 semaines. Et puis là, m'étais toujours promis que j'y vivrais plusieurs mois. J'y suis parti 6 mois en 2010, après cet épisode dont je viens de parler. Et j'avais l'intention d'écrire un livre sur la cohérence.
Sur la cohérence.
Entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Qui me semblait bien à propos par rapport à ma démarche.
Ouais.
Et puis j'ai écrit le livre. Je l'ai écrit. Et en fait, quelques mois avant qu'il soit publié, j'ai demandé à mon éditeur de ne pas le faire paraître parce que je pensais qu'il n'était pas suffisamment cohérent. Le ton que j'avais utilisé était un peu prétentieux. Je me suis protégé derrière une sorte de théorie. Or, je crois que quand on parle de cohérence, on ne peut pas faire de la théorie. C'est très subtil, très complexe. Et je crois que si je devais le réécrire, j'espère le réécrire un jour, ce serait de l'ordre d'un témoignage personnel et d'une interrogation plutôt que trop de réponses.
On sent dans vos livres, Thierry Janssen, d'ailleurs, si vous me permettez cette remarque, une volonté de s'abriter derrière souvent des tableaux,
oui.
Derrière souvent un tel a dit que, un
je,
tel
vous savez,
pense
je m'en suis
que...
rendu compte.
À partir de quand, justement, la parole telle que vous la délivrez, telle que vous la prenez, peut-elle permettre que vous fendiez un tout petit peu plus
là,
l'armure?
Là, ça va arriver. Je sens que ça arrive. En ce sens, je vais avoir 50 ans cette année. Donc, je pense que c'est l'année où je me sens assis. Jusqu'alors, je me pensais être un enfant. Et je regardais les autres toujours comme plus âgés que moi, alors qu'ils étaient parfois plus jeunes. J'avais peur d'eux. Et je me disais, je ne suis pas à la hauteur. Petit garçon qui doit toujours bien faire. Et vous savez, quand j'ai quitté l'hôpital il y a 14 ans, j'ai jeté à la poubelle ce qui faisait ma légitimité, mon diplôme, ma compétence, une certaine réputation, etc. Et je me rends compte, et c'est seulement très récent, ça fait depuis la sortie du Défi Positif, il est sorti au mois d'octobre, j'ai commencé à réaliser que ce troisième livre, parce qu'il fait partie d'une trilogie avec La Solution Intérieure qui parlait de médecine, La Maladie est un insens qui parlait de maladie, et cette fois-ci on parle de bonheur et de bonne santé, mais d'une façon intégrative, en allant chercher dans plein de disciplines philosophiques,
oui, en croisant les disciplines
médicales. Et je me suis rendu compte que j'avais trouvé l'énergie pour écrire ces bouquins qui m'ont quand même chaque fois pris entre 10 et 15 mois d'écriture, 8 heures par jour. Il y a chaque fois 700-800 références que j'ai digérées pour essayer de les resservir, pour qu'un grand public puisse y avoir accès, etc. Et je me suis dit, mais cette énergie, je l'ai trouvée dans ce besoin de légitimité. Mais aujourd'hui, c'est bon. Je me sens légitime à mes propres yeux et probablement aux yeux de certaines
d'autres
personnes.
Est-ce qu'il faut être cohérent, Thierry Janssen ?
Et
est-ce que la cohérence est obligatoire ?
Et je pense que nous sommes toujours cohérents par rapport à quelque chose. Vous savez, quand on dit « il n'est pas cohérent », moi-même, quand je suis tombé malade, on m'a dit « tu n'es pas cohérent par rapport à ce que tu dis, vouloir faire de la vie, écouter tes besoins, créer ton espace intérieur ». Et je dis « oui, mais je crois que j'étais cohérent par rapport au petit être en moi qui a peur, qui a besoin de se rassurer, qui est capable de m'emmener sur les routes pour donner 200 conférences en un an ». Mais j'étais cohérent. Le tout est d'être conscient par rapport à quoi sommes-nous cohérents.
C'est la bonne question.
Et je crois que quand on l'est, on a un outil extraordinaire dans la vie parce qu'il y a une force pour manifester ce qu'on veut.
Merci beaucoup Thierry Janssen. Bel éloge du présent et du temps qu'il faut savoir se réapproprier. Le livre s'intitule « Le défi positif » et il est publié aux éditions « Les liens qui libèrent ». Le grand entretien, merci à Alexandre Fougeron pour la réalisation, Muriel Pérez pour la programmation musicale, Vanina Scalia, Grégoire Louis pour la préparation de cette émission, et Fabrice Desmas et Dimitri Gronov qui étaient à la technique.